Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
est brisé. Reçois la gloire, éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois les
acclamations.
Oh, ton peuple éternel.
Alléluia. Seigneur, Jésus, que ton nom soit béni. Que la louange, la gloire, l'élévation, la majesté de Dieu. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose Jésus. Jésus, chantons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, chantons Père. Alléluia, Père, chantons Père, 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 chantons Saint-Esprit. Chantons le Saint-Esprit, prends le contrôle, et tends ta main sur nous. Chantons encore Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus, ton bonheur est à toi, Jésus. Chantons encore le Saint-Esprit, Esprit de Dieu Saint, conduis ce moment saint.
Saint-Esprit. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas prier Dieu. Nous allons ensemble élever la voix. Tu vas prier pour la parole afin qu'elle vienne de Dieu, afin que je sois un instrument entre les mains du Seigneur. Et tu vas prier pour toi-même afin que ton cœur soit disposé pour recevoir favorablement la parole du Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Yanda brandi clari negara arrabara la primera de saragara la porbara la carla babashi Yanda brandi clari negara la porbara la primera de suduri negara urbara la carra babashi Kaire lori yanda negara la porbara la primera de satta brandi clari negara Nindo lori negara la porbara la primera de sarabara la primera de clovi tagaris Kaire lori de pede sakara bara la yogesh Alléluia. Seigneur Jésus, je lève la voix vers toi ce soir afin de nous remettre entre tes saintes mains. Seigneur, je me confie en toi. Oh Dieu, que ma personne disparaisse, Père. Tu vois combien de fois je suis faible. Je suis humain. Et à cause de moi, par ma personne, par mes fautes, par mes manquements, Seigneur Dieu, je peux être un entrave à ta bénédiction. Mais Seigneur, je te prie d'intervenir pleinement afin de pardonner mes fautes, mes erreurs, mes manquements et de m'utiliser comme un saint instrument de tes mains, Seigneur Jésus, comme un canal, comme une source de bénédiction, Père éternel, pour ton peuple ce soir. Regarde tes enfants, Seigneur Jésus, quitter leur lieu de travail, leur domicile et divers endroits pour se retrouver ici. Tu dis dans ta parole que si Dieu, toi, soit assemblé en ton nom, tu es présent. Nous croyons que tu es là ce soir parmi nous et nous te demandons de nous visiter, de nous guérir par ta parole, de nous relever. Ô Dieu, si nous avons dévié, si nous nous égarons, ramène-nous sur la voie, parce que Seigneur, nous t'aimons. Tu dis dans ta parole que le chemin est tortueux. Il nous arrive quelquefois, Père éternel, ô Dieu, de laisser un pas, Seigneur Dieu, au travers de la route. Mais Seigneur Jésus, tu nous ramènes sur le chemin et tu nous conduis, Père éternel, vers le pâturage. Ô Dieu, nous avons besoin de toi et nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous t'aimons vraiment. Et ce que nous voulons, c'est de faire ta volonté. Faire ta volonté, faire ta volonté et seulement ta volonté. Remplis ton esprit de ta puissance, de ta grâce divine, Seigneur. Bénis cette église. Bénis cette église, Seigneur Dieu, par le ministère que tu me donnes, Seigneur Jésus. Bénis cette assemblée, bénis ses frères, bénis ses soeurs, bénis tous ceux qui sont là ce soir. Et donne gloire à ton Saint-Nom. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont venus, étant malades avec un problème quelconque. Que dans la puissance de ta parole, Seigneur Dieu, ils soient visités, guéris, restaurés, transformés. Parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Qui est comme toi, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, on peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Gloire à Jésus.
Amen.
Gloire à Jésus.
Amen.
Que le nom de Dieu soit béni. Et si on est dans la joie d'être avec vous. Nous avons commencé quelque chose le mercredi et nous allons continuer dans la même lancée. Le mercredi passé, nous étions basés sur un passage. Le premier passage que nous avons lu, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, où le Seigneur parle de l'église de Laodicée. C'est la dernière lettre qui a été envoyée aux sept églises de le livre d'Apocalypse. Et dans cette lettre-là, le Seigneur parlait à une église qui était ni chaude ni froide. Dieu disait qu'elle était tiède. Et Dieu disait justement que parce que cette église est tiède, elle allait être vomie de sa bouche. Et nous avons expliqué ce que c'est que la tiédeur. Et nous avons fait un parallèle avec ce qui est dit à l'église de Laodicée et ce que le corps de Christ vit aujourd'hui. Et je disais que aujourd'hui, nous rencontrons des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans l'église, par des miracles, par des prédications, par des révélations de la parole extraordinaires, par plusieurs enfants de Dieu qui sont bénis, qui prospèrent, etc., etc., qui nous donnent l'impression et qui nous montrent que quelque part Dieu est vraiment avec nous et que l'église est en train de passer par un moment exceptionnel. Mais lorsque nous regardons, lorsque nous approchons aussi de la vie des individus, nous découvrons que beaucoup de gens n'ont pas une véritable vie de communion avec le Seigneur, par leur vie de sanctification, dans la marche avec la crainte de l'Éternel. Et je vous avais dit justement de la part du Seigneur de prendre garde parce que nous sommes à l'heure de l'église de Laodicée où la Bible dit que justement l'église sera tiède, sera ni chaude ni froide, où il y aura une confusion entre l'esprit de réveil et la mort spirituelle. Mais dans cette période-là, de la même manière que Christ a parlé à l'église de Laodicée pour demander à certains de se mettre à part, je vous avertis dans le nom de Jésus de vous mettre à part, de vous sauver de ce siècle pervers par une vie de consécration, par un caractère qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le monde passe. Le monde passe avec sa convoitise. Jésus revient bientôt et il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts par notre vie, par notre témoignage, dans la façon dont nous nous comportons. Et le Seigneur nous a laissé des choses essentielles dans sa parole. Le premier des commandements qu'il a laissé, c'est celui de l'amour. Il y a encore d'autres choses qui viennent. Vous savez, la Bible est un tout. La Bible dit très justement, lorsque le Seigneur finit, il dit que personne n'ajoute et que personne ne retranche quelque chose des paroles de ses livres. Parce que tout est important. Amen. Alléluia. Ne vous trompez pas en disant, ah voilà la chose la plus importante, donc les autres ne sont pas importants. C'est une grave erreur. Amen. Toutes choses sont importantes dans la parole de Dieu. Il y a bien sûr un ordre de valeur avec le Seigneur. Il y a un ordre de valeur. Et tout ce que Dieu dit doit être mis en pratique. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait se plaindre des pharisiens en disant, vous laissez les choses les plus importantes pour vous attarder sur le détail. Il fallait d'abord mettre ces choses-là en pratique, sans négliger les autres. Amen. Et je vous dis la même chose aujourd'hui dans l'amour de Jésus. Frères et sœurs, sauvons-nous de ce siècle pervers. Ne nous laissons pas contaminer par le siècle, par ce monde-ci. Jésus pouvait dire, une fois il a dit, oh, quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi sur terre? Quand vous lisez le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le Seigneur dit qu'avant la manifestation de l'Antichrist, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça signifie la perte de foi. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, normalement la dernière fois, versets 11, 12, 13, le Seigneur dit que tellement le péché va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons tout en Jésus-Christ et nous sommes capables de vaincre. Puissons-nous connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique telle qu'elle est. Alléluia. Que ceux donc qui écouteront cette parole et qui se sentiront touchés par leur vie, voyant qu'ils ne marchent pas exactement selon ce que le Seigneur demande, que ce soit qu'ils s'humilient simplement devant la face de Dieu, qu'ils se répandent et qu'ils demandent au Seigneur de venir les aider. Amen. Alléluia. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous devons nous battre. Nous devons continuer. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous avons l'assurance de la victoire. Alléluia. Alléluia. Et nous rappelons ces choses parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Vous savez, il est bon d'entendre et de se rappeler les choses du Seigneur. Il faut se les rappeler. J'ai un ami qui me dit souvent que la foi vient de ce qu'on entend, non pas de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire une prédication qui a été faite il y a 5 ans ne produit pas la même foi aujourd'hui. Donc il faut chaque fois, la parole doit être présente dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut l'entendre constamment. Alléluia. C'est ce qui va produire dans ta vie, la foi, la vie. Nous sommes basés aussi après sur le passage de Matthieu, le chapitre 22, où quelqu'un avait donc demandé au Seigneur, Seigneur, quels étaient les commandements les plus importants? Et Christ lui avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta capacité, de toute ton âme. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'insisterai un peu plus là-dessus aujourd'hui. Et je disais aussi que lorsque le Seigneur dit que le péché va tellement s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir, il parle bien sûr de l'Église, de notre amour. Et j'ai touché l'amour que nous avons pour Dieu. Nous avons rappelé le passage de Matthieu, le chapitre 6, au verset 33, où le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et j'ai cité que beaucoup dans leur cœur aujourd'hui ne donnent plus la primauté à Christ. Jésus a quelquefois la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, ainsi de suite, place dans leur cœur. Christ n'a pas la première place. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'être le premier dans nos cœurs. Alléluia. Mais un commandement qui est semblable, dit le Seigneur, un commandement qui est semblable, c'est celui-là, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Quand Dieu dit que l'amour du plus grand homme va se refroidir, de quoi est-ce qu'il est en train de parler exactement? Je ne suis pas rentré la dernière fois dans le détail du caractère de l'amour. L'amour est une chose qui est très 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 particulière dans la parole de Dieu. Vous allez le comprendre tout à l'heure lorsque nous prendrons le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 13, qu'on appelle l'hymne à l'amour. C'est un paramètre à part. C'est quelque chose de très différent. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à vivre l'amour. Nous devons nous efforcer à rechercher le caractère de l'amour. L'adoration sans l'amour est vaine. La prière, la consécration, les dons, les offrandes, sans l'amour sont vains. Et je faisais la parenthèse, donc, le mercredi passé, en parlant de ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1, où il est parlé de Caïn et de Abel. Lisons-le rapidement. À partir du verset 1, il a dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Voilà un passage que nous connaissons, mais qui est assez particulier, qui parle ici de l'adoration. Juste avant ce passage, il ne nous est pas mentionné que Caïn était un homme mauvais, méchant, etc. La première chose qu'il essaie de Caïn, c'est qu'un jour, Caïn s'est levé, il a fait une offrande à Dieu. Il s'est même levé avant son frère Abel. La Bible dit, il a fait une offrande des fruits de la terre. Abel aussi est venu dans la suite, il a fait aussi une offrande. Mais la Bible dit, des premiers-nés de son troupeau.
Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Dieu dit, Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et Abel, mais il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Donc, il y a deux choses que Dieu n'a pas approuvées. Caïn et son offrande. C'est pas seulement l'offrande. Amen. C'est pas seulement l'offrande qui n'a pas approuvé, mais c'est Caïn et c'est son offrande qui n'a pas approuvé. Alors, pourquoi Dieu n'a pas approuvé Caïn et son offrande? La première des choses se voit au niveau de la différence des types d'offrandes qu'ils ont faites. Cette offrande-là, vous savez, Dieu ne l'a pas approuvée, vous allez comprendre que ça émane d'un manque d'amour qu'on a pour Dieu. La Bible dit que à la différence d'Abel, Caïn a offert les fruits de la terre. Si vous lisez bien pour Abel, il a dit qu'il a offert les premiers-nés. Cela suppose que les fruits que Caïn a offert ne sont pas les premiers fruits. Si c'était les premiers fruits de son champ, il aurait été dit Caïn a offert les premiers fruits de son champ. Amen. Ça veut dire qu'il a fait d'abord la première récolte, il a consommé, et puis la seconde récolte, peut-être la troisième, je ne sais pas, il a dit, bon, je vais faire une offrande à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas approuvé son offrande. C'était une offrande à Dieu, mais en fait, Dieu n'était pas le premier dans son cœur. Il a pensé à lui, à d'autres personnes, avant Dieu. Amen. C'est ce que nous avons traité dernièrement, l'amour qu'on a pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Abel lui a offert le premier de ses troupeaux. Ça veut dire, dès qu'il a eu des enfants, la première personne à qui il a pensé, ce n'était pas lui, ni sa maison, ni quelqu'un, mais c'était d'abord Dieu. Et vous savez, même dans nos offrandes, dans nos vies de tous les jours, nous montrons à Dieu comment nous l'aimons. J'ai beaucoup cité là-dessus la dernière fois. Et Dieu le sait, dans nos gestes, dans nos actes, la façon dont nous réagissons. C'est ainsi qu'on arrive à déterminer, si Dieu arrive à déterminer si quelqu'un l'aime ou si quelqu'un ne l'aime pas. Je vais vous montrer la différence simplement entre deux façons de prier Dieu. Vous allez voir une différence entre l'amour de Dieu. Je prends deux frères. Un qui s'appelle Norbert, un qui s'appelle Bernard. Est-ce qu'il y a des frères qui ont ce nom-là ici? Il y a un Norbert, il y a un Bernard. Bon, ok, si on n'a pas, tant mieux. Donc, Norbert et Bernard. Norbert et Bernard sont deux frères qui prient Dieu, qui vont à l'église. Et Norbert, lui, lorsque, par exemple, il va prendre son repas, il oublie souvent de rendre grâce, il oublie quelquefois de prier avant de dormir, qu'il se souvient, il prie, de temps en temps, il lit sa Bible, bon. Il aime Dieu, il vient à l'église. Bernard est un peu plus aimé. En toute chose, parce qu'il a vu dans la parole de Dieu, rend grâce en toute chose. Il prend le temps, il bénit le Seigneur avant de prendre son repas. Il rend grâce à Dieu, il prie avant d'entreprendre toutes choses. Et un jour, les deux vont à l'église. Et ce jour-là, leur pasteur a invité un ancien sorcier converti. Et ce monsieur commence à rendre le témoignage de ce qu'il faisait dans le monde, dans la sorcellerie, et il dit, vous savez, chrétien, quand vous ne priez pas avant de dormir ou avant de manger, les sorciers, ils viennent et ils marchent dans vos repas, et puis après, tu as plein de douleurs dans le ventre. Et toute l'église écoute ça, l'église est édifiée. On dit, ah ben, on comprend maintenant pourquoi le Seigneur nous a demandé de rendre grâce avant de manger. Parce que lorsque nous rendons grâce avant de manger, nous nous protégeons nous-mêmes. Et puis dans cet instant, Norbert qui a écouté la parole dit, ah, ça, et il est touché. Donc, il faut que je rende grâce pour éviter que les sorciers me créent des problèmes. Et vous allez voir les deux sur la table en train de manger, en train de rendre grâce, en train de prier. Si vous les voyez les deux prier, vous direz, oh, ces deux frères-là aiment le Seigneur. Mais Dieu approuve plus la prière de Bernard que celle de Norbert. Norbert prie pas parce qu'il aime Dieu, mais parce qu'il s'aime lui-même. et parce qu'il a peur pour sa vie. Amen. Mais il prie Dieu. Bernard, lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait parce que Dieu, qu'il adore et qu'il aime, lui demande de faire quelque chose et il a envie d'obéir. Amen. Donc, deux chrétiens peuvent poser deux actes qui se ressemblent, mais qui ne seront pas les deux agréables à Dieu. Alléluia. Mais cela ne veut pas pour autant dire que ce que Norbert est en train de faire est un péché. Ce n'est pas un péché. Vous savez, dans la volonté de Dieu, si Dieu permet, Dieu permettra sûrement qu'un jour on puisse se revoir, je traiterai ça en détail, il y a plusieurs niveaux dans la volonté de Dieu. Vous les voyez dans le livre de Romains, le chapitre 12, au verset 2. Il est dit, soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, c'est quelque chose qui croit. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a le bon, il y a l'agréable, il y a le parfait. Ce qui est parfait est supérieur à ce qui est agréable. Et ce qui est agréable est supérieur à ce qui est bon. Donc, deux personnes peuvent être dans la volonté de Dieu. Et puis, une personne sera plus dans la volonté de Dieu que son frère. Mais les deux sont dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous faisons qui sont la volonté de Dieu. Mais il y a des choses que nous posons parce que nous aimons le Seigneur qui sont agréables à Dieu. Quelqu'un qui agit envers Dieu par amour pose des actes qui sont agréables à Dieu. Je vais vous poser une question. Là, c'est un peu plus fort. Vous allez voir réellement si vous... Ça teste un peu l'amour de Dieu. Je pose la question souvent aux églises. Frère, si Jésus revient, ou bien Dieu envoie par exemple un ange, ou bien tous les anges des cieux, arriver sur la terre et poser la question à toute l'église. Imaginez, Dieu demande aux chrétiens, et s'il y a, Dieu annonce à l'église qu'il n'y a plus d'enfer. L'enfer n'existe plus. Bon, ça ne va jamais arriver. Ça, je suis convaincu. Ça va, l'enfer existera. C'est ce que je dis. Mais supposons que les anges viennent, Dieu même descende pour vous dire, chrétien, chrétien, homme de toute la terre, Dieu a décidé d'annuler l'enfer. Il n'y a plus d'enfer. C'est fini. Je pose la question, combien vont rester chrétiens? Non, juste toi-même. Est-ce que s'il n'y a plus de raison d'aller en enfer, est-ce que toi tu vas continuer à servir le Seigneur, à avoir une vie de sanctification, à marcher dans la crainte de Dieu? Juste toi-même. Juste toi-même. Et tu sauras quel est l'état de ton amour envers Dieu. Si tu sens au fond de toi que tu risques de relâcher ta vie chrétienne, c'est que tu vois quelque part au fond de toi, tu n'aimes pas profondément l'Éternel. En fait, tu marches avec Dieu pour toi-même. Pour te sauver, pas parce que tu l'aimes. Mais c'est vrai que ce que croire en lui pour éviter l'enfer, c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Hein, ouais, c'est la volonté bonne de Dieu. Ouais, la volonté bonne, agréable, parfaite. Donc c'est bon. Si tu crois pour ne pas aller en enfer, c'est une bonne chose. Félicitations, gloire à Dieu. Mais c'est évident que tu n'iras pas aussi loin que celui qui adore, parce qu'il l'aime tout simplement. Il y a des choses que tu ne seras pas capable de faire pour le Seigneur. Chaque fois que tu te demanderas, chaque fois que Dieu va te demander de faire quelque chose, ou on te demandera de faire quelque chose à l'église, tu diras, est-ce que si je ne fais pas ça, ça me conduit en enfer? On te dit non, tu dis, ah ben, si dans ce cas, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Dans la réalité, sans qu'ils se rendent compte, profondément, ils n'aiment pas Dieu. Quand le Seigneur dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, c'est de ça qu'il parle. Les gens n'aimeront plus Dieu. Beaucoup de gens suivent Christ pour des intérêts personnels. C'est vrai que Jésus nous bénit, il peut nous donner le mariage, il nous donne la vie. C'est vrai. C'est vrai que Christ le fait. Tu peux l'adorer pour avoir ça. C'est une adoration aussi, c'est aussi valable. Comme tu peux l'adorer parce que tu l'aimes. Mais Dieu dit que le péché va tellement s'accroître que les hommes vont marcher avec Christ par intérêt. C'est pourquoi il a dit que vers la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et à la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, de bonnes paroles. Ils vont susciter une foule de docteurs pour enseigner ce qu'ils veulent entendre. Amen. Alléluia. Les gens n'aiment pas trop qu'on parle de leur vie, de la vie de sanctification, de la crainte de Dieu. Parce que c'est gênant. Parce que tout le monde a l'impression qu'en fait, que tout le monde vit dans le péché. Jésus veut nous délivrer. Le péché va tellement s'accroître que l'amour du plus grand homme va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. La deuxième des choses qui a fait que Dieu n'a pas approuvé Caïn, parce que là j'ai parlé de l'offrande de Caïn, pas de Caïn lui-même. Si vous le comprenez, en fait, à la fin Caïn est parti tuer Abel. Pour moi c'est une preuve que Caïn, au fond de son cœur, n'aimait pas Abel. Amen. Parce que je ne crois pas que si j'aime mon frère, et qu'il fasse quelque chose qui est mieux que ce que moi j'ai fait, je ne vois pas pourquoi j'allais le tuer. Si je vais lui porter main, ça veut dire qu'auparavant je ne l'aimais pas. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, et que la personne, on passe, par exemple, je suis avec ma soeur, on passe tous deux des examens, et que l'autre a réussi à son examen, et que mon cœur est rempli directement de jalousie, je veux détruire sa vie parce que lui, il a réussi et pas moi, ça prouve que je ne l'aime pas. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on aime le bonheur de la personne. Amen. Donc en fait, le deuxième problème de Caïn, c'est que Caïn n'aimait pas Abel. C'est pourquoi il est dit, Dieu n'a pas approuvé Caïn lui-même. Et c'est ce qu'il a manifesté en allant tuer Abel. Et donc on en revient à ces deux passages. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, qui s'est caractérisé dans l'offrande, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui sont des choses qui sont semblables. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque Dieu parle d'amour, c'est quoi exactement l'amour? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ce fait-là que nous avons perdu l'amour? J'ai déjà cité quelques points qui peuvent être des signes pour nous. Ouvrons-nous dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. La chose pour laquelle je veux dire le plus prié dans ma vie chrétienne, c'est que Dieu puisse remplir mon cœur de son amour. Et chaque fois, je prie le Seigneur pour ça. Et chaque fois que je lis ce passage, chaque fois que j'ai l'occasion de le prêcher, je remets même ma vie en cause. Je crois que tant qu'on est sur la terre, on doit chercher à s'améliorer, on doit tendre vers la perfection. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Je vais le lire en même temps, je vais le commenter. Il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Commentons cette première partie du verset 1, verset 3. Le Seigneur cite ici les dons et les capacités spirituelles que peuvent manifester les enfants de Dieu. Et il les compare au manque d'amour. Il dit, premièrement, quand je parlerai les langues des hommes, les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais ne sert à rien. Je dis, quelle que soit la puissance de ton parler en langue, si tu pries en langue, c'est une bonne chose. C'est un don de Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous savez, c'est touchant parce que Dieu dit que quelqu'un peut être rempli, comme on dit, du Saint-Esprit, parler en langue et ne pas avoir l'amour. En fait, c'est ce que ce verset est en train de dire aussi. Ton parler en langue peut être le plus développé. Au point où, lorsque tout le monde t'écoute, on dit, mais jamais je n'ai entendu un homme parler si puissamment en langue. Mais Dieu dit, tu peux parler en langue autant, mais ça ne signifie pas que tu as l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, ce que tu es en train de faire n'est rien. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, le Seigneur peut te révéler tout ce qui doit arriver dans la suite des temps. Mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais n'est rien. Chaque fois que je lis ça, je suis étonné. Je suis étonné, je me dis, mais Seigneur, mais on admire tellement souvent les gens qui ont des grands prophètes. Tu te dis, non, mais cet homme-là, sûrement que c'est l'ami de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive avec précision. Il a une parole tellement précise. Mais Dieu dit, tu peux voir un homme avec une si puissante onction, mais ça ne signifie pas qu'il a l'amour. Il dit, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, ça c'est ceux qui ont la grande connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit qu'il est possible qu'un homme ait une révélation extraordinaire de la Bible, qu'aucun verset ne soit un mystère pour lui, mais ça ne signifie pas qu'il a l'amour. Lorsque nous voyons de tels hommes de Dieu manifester de tels charismes, nous disons, oh, ces gens-là sont si proches de Dieu. Mais la Bible dit pourtant, non. Que sans l'amour, tout ce que tu peux avoir comme don n'est rien. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est le plus important de tous les commandements, le tout premier. C'est par ce commandement-là de l'amour que l'humanité a été sauvée. Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde. La Bible dit, deux personnes marchaient ensemble sans s'être mis d'accord. Ce qui a amené Christ sur la terre, c'est l'amour. Lorsque vous évoluez avec Christ, sans le même sentiment qu'il a éprouvé pour Dieu et pour les hommes, le ministère sera compliqué. Vous allez servir autre chose que lui. Amen. Il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est encore impressionnant. Imaginez-vous un homme, vous voulez inviter un jeune croisade à une réunion ici, il prie. Il dit que cette chair-là se déplace au nom de Jésus. Et devant vous, elle se soulève. Elle va jusqu'au fond de la salle, elle revient. Je suppose qu'après ça, nous tous, on va dire non. Dieu est venu parmi nous. Frère, Jésus, Dieu. Et on dira sûrement que tout ce que cet homme-là dira, c'est que c'est Dieu qui lui a parlé. Parce que pour manifester une telle puissance, ça veut dire que sûrement que lui, il dort avec Dieu. Vous savez, parce que nous jugeons les hommes à leurs dons, à leurs capacités. Amen. Mais la Bible dit, voilà comment vous reconnaîtrez mes serviteurs, à leurs fruits, pas à leurs dons. Amen. Le fruit, c'est le caractère. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Vous savez, ne pas avoir l'amour, c'est un peu comme si... Le manque d'amour, c'est comme si on multipliait quelque chose par zéro. Et toutes les œuvres que tu fais sont des additions. Je prie en langue. Plus 3. Je vais à l'église tous les dimanches à toutes les réunions du soir. C'est bien. Plus 5. Je chante à la chorale. Plus 15. Et puis Dieu te cumule tes points pour le paradis. Et quand il arrive à un moment donné, il dit, mais regarde, pas d'amour. Multiplié par 0. Égale 0. Oui, parce que s'il est capable de dire qu'un homme a une foi jusqu'à déplacer des montagnes, il dit que quelqu'un peut avoir la foi jusqu'à déplacer des montagnes et ne pas avoir l'amour. La foi qui déplace les montagnes ne veut même pas dire que l'individu qui manifeste un tel charisme a l'amour. C'est ce qui fait que l'amour est un peu compliqué. Un peu complexe. Vous savez, nous évaluons notre vie spirituelle en fonction de nos talents. Généralement, personnellement. Mais Dieu dit que c'est faux. Et il va encore plus loin. Il dit, quand je dissimulerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Pourtant, ça ressemble tellement à l'amour. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais ne sert à rien. Oui, là, ça commence à ressembler un peu plus à l'amour. Il dit pas la moitié de tes biens. Quelqu'un peut aller jusqu'à donner tous ses biens. Mon frère, quand tu rentres ma fait toute la plus grosse offrande de toute ta vie, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais n'est rien. C'est ce qu'il dit ici. Cette offrande est peut-être pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour les pauvres, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu aussi. Mais on peut faire une offrande simplement parce qu'on nous a dit, ah, si tu fais cette offrande aujourd'hui, demain tu vas recevoir beaucoup de milliards. C'est normal de donner pour recevoir. Il faut faire des semences. Amen. Mais c'est différent du caractère du côté d'amour. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a les offrandes de la semence, tu sèmes pour récolter. Et puis il y a des offrandes qui traduisent l'amour que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Oh frère, jugeons nos vies. La Bible dit de nous juger nous-mêmes. Nous-mêmes, par rapport à sa parole. Ces choses, nous ne les inventons pas. C'est Dieu qui l'a dit lui-même. En 1 Corinthiens chapitre 13. Et à partir du verset 4, le Seigneur va commencer à définir ce que c'est que l'amour. Première caractéristique, la Bible dit que, c'est-à-dire comment savoir que j'ai l'amour ou que je n'ai pas d'amour? Comment le sentir? La Bible dit que l'amour est patient. Ça veut dire simplement que quelqu'un, lorsque l'amour est dans votre cœur, lorsque vous commencez à développer l'amour, vous développez le caractère de la patience. Ça veut dire tout simplement que si naturellement tu sens que tu es impatient, ça veut dire que tu manques d'amour. Si tu ne sais pas attendre... Alléluia. C'est écrit, hein? Amen. Vous savez, et c'est, en ce moment, vous comprenez le passage de Matthieu, chapitre 24. Le monde va tellement vite que la patience du plus grand nombre va se refroidir. Tout est speed. On n'a pas le temps. Et aujourd'hui aussi, nous aussi, on n'a plus le temps. Même avec Dieu, on n'a plus le temps. Tout va vite. Et nous devenons impatients. Tellement le péché va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Dieu veut dire que tellement le péché va s'accroître, la patience va disparaître des cœurs. Comme pour la plupart, nous ne lions pas l'amour à la patience. Quand nous devenons impatients, nous pensons que nous gardons l'amour. Or, c'est faux. Vous allez vous rendre compte que tous ces sentiments-là sont liés. L'amour est patient. L'amour, c'est attendre. Amen. Quand tu vas prier pour ça, tu t'enlèves au Seigneur, rends-moi patient. Dieu va te rendre patient. Il va te faire attendre quelque chose. Je ne sais pas comment il va te faire attendre. Et tu vas pleurer, tu vas souffrir. Mais peut-être que tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui va te faire attendre. Et tu vas vouloir t'irriter. Dieu va dire, je te dis quoi? Tais-toi. Peut-être qu'il te mettra dans un embouteillage interminable. Pour éprouver juste ta patience. Frères, ne soyons pas séduits par la précipitation du monde. Amen. Soyons patients. Même si le monde est pressé, soyons patients. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Mais il agit. Nous disons toujours que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous oublions que c'est à 80 ans qu'il a utilisé Moïse. Moïse pensait qu'il allait commencer à 40 ans. Dieu dit, attends mon fils. Il a mis 40 ans plus tard. Vous voyez tout le temps qu'il a fait attendre Abraham pour avoir son fils. Mais nous sommes devenus tellement impatients que une seule peut prier pendant un an, elle n'a pas eu d'enfant, elle dit, bon, c'est trop tard, Dieu ne veut plus me donner un enfant. Dieu n'a pas changé. Vous savez, on aime bien dire ce verset par rapport au miracle. Mais on n'aime pas l'appliquer par rapport au temps où les anciens, le temps pendant lequel les anciens aussi ont attendu pour voir la gloire de Dieu. On a dit, oh, mais tu sais, Dieu a fait un miracle, il a guéri la stérile. Okay. Mais quelquefois, ça fait 17 ans, 23 ans. Et nous n'acceptons pas cela. Lorsque nous prions, nous voulons que Dieu le fasse maintenant et tout de suite. Pas dans un an, pas dans deux ans. Quand nous disons, Seigneur, nous voulons nous marier, c'est maintenant. Et maintenant, je veux me marier, pas dans trois jours, pas dans un an, maintenant. Alléluia. Le monde nous a rendus impatients. Non mais je prie ça toujours dans mon église, mais quand je dis aux frères d'attendre pour la bénédiction, ils ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Parce que le monde nous a appris à aller vite. Mais que Dieu nous aide. La Bible dit que l'amour est plein de bonté. Quelqu'un qui a l'amour est très bon. Il est bon. L'amour n'est pas envieux. Quelqu'un qui a l'amour n'envie pas, ne convoite pas. L'amour ne se vante pas. Quelqu'un qui a l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. L'amour est humble. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. Il ne se met pas constamment en colère. L'irritation, c'est des gens qui s'énervent très rapidement. C'est un manque d'amour. Si tu vois que les choses se manifestent en toi, approche-toi simplement devant le Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-moi à vaincre cela. Et vous savez, c'est chaque chose qu'il est en train de citer, prenez le temps dans votre vie pour les atteindre. Prenez la patience et puis prenez du temps. Apprends-moi à apprendre. Apprends-moi à attendre. Apprends-moi à être patient. Après, apprends-moi à ne pas envier. Regarde dans ton caractère si tu envies, si tu convoites, s'il y a une toute petite convoitise en toi. Et mets ça devant la face de Dieu. Le Seigneur est puissant pour te guérir. Vous savez, Jésus qui nous délivre de tout péché a la puissance pour le faire. Cela peut être impossible pour les hommes, mais ce n'est pas impossible pour Dieu qui est en nous. C'est pourquoi nous pouvons dire ces choses. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'amour ne soupçonne pas le mal. Soupçonner le mal, c'est regarder quelqu'un et puis dire s'il est bon ou s'il est mauvais, sans avoir la preuve. Beaucoup confondent le soupçon et puis le don de discernement des esprits. Il dit je discerne, c'est pas ça. Le don de discernement est un don spirituel qui vient de Dieu. Il se suit avec beaucoup d'amour. Ça veut dire, il discerne pour guérir. Tandis que soupçonner le mal, discerne pour fuir. Ça veut dire, quelqu'un qui soupçonne le mal, il découvre que ce frère-là est orgueilleux. Donc, il ne marche plus avec lui. Ça, c'est pas ce que c'est pas. Le discernement discerne qu'il a tel problème et il prie pour l'aider. Amen. Parce que si Dieu devait nous fuir, dès qu'il découvrait nos péchés, je pense que personne parmi nous serait sauvé. Voilà. Mais le Seigneur est patient envers nous, pendant que nous puissions changer. Alors si Dieu est si bon envers nous, pourquoi nous sommes-nous si durs les uns envers les autres? Il y a des gens qui ont la facilité de soutenir le mal. Par exemple, regarde, le frère marche. Par exemple, aujourd'hui, tu as salué un peu froidement parce qu'il pensait à quelque chose d'autre. Tu viens interpréter. Tu as vu même à saluer. Ça veut dire qu'il m'en veut. Il y en a facilement qui voient le mal. Tu ne sais pas, hier, tu n'as pas bien souri avec eux. Ils vont aller toute la nuit, ils vont ruminer. Voilà, le pasteur est fâché contre moi. Depuis hier, il ne m'appelle plus. Rapidement, leur pensée va dans le mal. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas, oh, ça fait deux jours que le pasteur ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il n'a pas un problème lui-même? Mais tu vois, comme si c'est toujours toi, les gens sont contre toi. Les gens t'en veulent, les gens t'oublient. Les gens ne t'aiment pas. Amen. Tu vois. Et quelle que soit l'affection que quelqu'un pourra t'apporter, ça ne te guérira pas. Il faut que toi-même, tu décides de changer. Alléluia. L'amour raisonne différemment. Quand l'amour découvre un défaut dans la vie d'une personne, l'amour a l'envie de l'aider. On m'a raconté un témoignage d'un homme un jour qui marchait. Et il y a un jeune homme qui est passé, qui est venu lui arracher, dans un couloir noir, qui est venu lui arracher son sac. Et il s'est mis à fuir. Et le monsieur a appelé le fait. Il a dit, jeune homme, arrêtez-vous. Le jeune homme s'est arrêté parce qu'il était seul dans la rue de toute façon. Il s'arrête et puis il dit, oui, qu'est-ce que tu veux, vieux? Il dit, j'ai encore un peu d'argent dans cette poche-là. Le jeune est étonné. Il dit, je suppose que si tu as pris ça, c'est que tu as vraiment besoin d'argent. Mais je peux encore t'en donner. Et le jeune a été profondément touché. Amen. Il a donné sa vie à Jésus. Le vrai caractère du chrétien, c'est celui de l'amour. C'est ça notre vraie nature. On m'a raconté une histoire vraie qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Je me demande encore, est-ce qu'il peut y avoir des chrétiens comme ça? Raconte l'histoire d'une dame qui un jour partait faire des emplettes avec son mari. Il venait se marier, ça faisait à peine une semaine. Et dans l'endroit où il faisait le marché, il y a un brigand qui est rentré, qui a tué dans le hold-up, un qui a tiré sur son mari. Et le monsieur est décédé, je crois, une semaine après le mariage. Et la dame a reconnu, a dévisagé le monsieur qui a tiré. Elle s'est passée, elle a pleuré, elle a fait le deuil. Et quelques temps après, elle était chez elle à la maison pendant qu'elle entend des coups de feu. Il y avait un groupe de brigands qui se battait avec des policiers, et les gens commençaient à fuir. Et celui qui avait tué son mari avait été atteint d'une balle. Dans sa fuite, en se rendant dans une maison, il est parti taper à la porte de la bonne dame dont il avait tué son mari, le mari. Tape, elle ouvre, elle voit le criminel de son mari. Je crois qu'elle a dû sûrement hésiter, elle sait pas ce qu'elle a fait, mais elle a reçu, elle a fait rentrer dans la maison. Et puis, elle a traité. Sans lui dire quelque chose. Jusqu'à ce que le monsieur soit entièrement rétabli. Et quand le monsieur était guéri, elle était bien contente. Elle a dit vraiment, madame, merci, vous êtes très gentille. La dame l'a demandé, est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Il dit, non, je ne vous connais jamais, je ne vous ai jamais vu à part ici. Et puis elle lui a relaté les faits. Vous vous souvenez à telle période, dans tel endroit, vous êtes parti, vous, faire tant. Vous avez tiré sur quelqu'un. Le monsieur dit, ah bon, il dit, cet homme-là, c'était mon mari. On venait à peine de se marier. Mettez-vous à la place du voleur. Il a pleuré, il s'est repenti, et aujourd'hui, selon le témoignage qu'on m'a donné, c'est un serviteur de Dieu. C'est vrai que ce sont des choses qui sont difficiles, mais ce caractère-là, c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de tout. L'amour excuse tout, l'amour croit tout. L'amour espère tout, l'amour supporte tout. Je vais terminer par l'amour supporte tout. Comment sentir quelquefois que vous manquez d'amour? Vous pouvez le sentir par votre capacité à supporter les offenses. Alléluia. 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 J'ai dit souvent, est-ce que vous savez que être vexé, est-ce que être vexé là, c'est charnel? C'est-à-dire que vexer les gens, ce n'est pas bon. Mais être toujours vexé, c'est charnel. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Bon, ça sera dans un petit enseignement qu'on appelle le brisement du moi, du caractère, le changement de la personne. L'amour supporte tout. Il y a des personnes, par exemple, qui ne supportent pas. Ils veulent bien que tu viennes parler avec eux. Si tu veux les reprendre, il
faut les attraper, il faut les parler doucement. Ils n'aiment pas qu'on élève la voix sur eux. Voilà. Ça paraît simple, mais c'est un manque d'amour. L'amour supporte, c'est-à-dire que quelqu'un t'écrit là-dessus, quelqu'un t'écrit pas, ça ne te fait rien. Quelqu'un qui a l'amour, c'est très difficile de le vexer. C'est très compliqué. Alléluia. C'est très difficile. Ça, quand tu le tapes sur une joue, tu es dans l'autre joue. Quand tu le tapes sur une joue, il ne voit pas quelqu'un qui l'a tapé. Il voit quelqu'un qui a un problème. C'est pourquoi il le gifle. Le problème. Si tu es si irritable, si coléreux, c'est que c'est toi qui as des problèmes. Donc il ne voit pas l'offense que tu lui fais, mais voit plutôt le problème qui est en toi et il cherche à t'aider. Si nous sommes ici dans l'église, vous allez voir que beaucoup de choses vont être réglées. Parce que dans l'église, on ne peut pas... L'église, c'est un peu comme un hôpital. C'est ouvert à tout le monde. Il y a toutes sortes de caractères, toutes sortes de gens qui arrivent. Il y a les calmes, il y a les nerveux, il y a les gentils, il y a tout. Et on dit, nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Moi, je fais une chose. Je viens à l'église, je suis mon culte et je rentre chez moi. Cette église, hein, je ne m'attache pas aux gens. C'est charnel, c'est le diable. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, mes amis, le culte n'est pas seulement prier Dieu. Le culte, c'est communier avec les frères. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et rappelez-vous, le temps manque, sinon je voudrais lire le passage de Matthieu chapitre 25. Regardez ce que le Seigneur dit aux gens. Regardez ce que le Seigneur dit aux gens. Il dit, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Et les gens lui ont demandé, Seigneur, quand avons-nous vu dans cette situation et avons-nous refusé de le faire? Il leur a dit, quand vous l'avez parlé de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'aime beaucoup ce passage. Parce que Jésus reprend les boucs en leur disant, j'étais en prison, j'avais ceci, j'avais cela, et vous ne m'avez pas aidé. Et ces gens-là sont étonnés parce qu'ils sont convaincus que s'ils avaient vu Jésus dans de tels problèmes, il aurait aidé. Vous comprenez? Si nous tous, si on apprend que Jésus est en prison, je pense que nous tous, on va le voir en prison. Si on apprend que Jésus a faim, tout le monde voudra lui donner à manger. Seigneur, non, tu ne peux pas... Mais Jésus dit, quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Jésus ne le voit pas. Vous savez, c'est facile d'adorer Dieu parce qu'on ne le voit pas. C'est facile de dire qu'on l'aime. Parce qu'on lui donne tous les caractères positifs. Il comprend, il est patient, il est tout. Même quelquefois, on se fâche avec Dieu. Mais bon, Dieu... Mais nous sommes durs et sévères avec les hommes. Et Dieu dit que notre vraie adoration, la vraie adoration, c'est pourquoi il dit que les deux commandements sont semblables. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Le véritable service que nous rendons à Dieu est un service que nous rendons aux hommes. Parce qu'honnêtement, même quand nous faisons des offrandes, ça ne va pas au ciel. Je ne crois pas que les offrandes qu'on passe, ça remonte au ciel. Okay. Alléluia. Alléluia. Le vrai service que nous rendons à Dieu, c'est envers les hommes. Si vous n'aimez pas les hommes, vous ne pouvez aimer Dieu parce que Dieu ne vous le voyez pas. Vous savez, si tu as ton père ou bien un oncle qui est multimilliardaire et que tu as des besoins d'argent et que tu vas le voir, tonton, je t'en prie, j'ai besoin juste de 100 000 francs ou même de 1000 francs pour entreprendre une activité. Juste ça. Et puis il te fait tourner. Viens après demain, je vais te donner un jour. Et il te dira, mais cet homme-là, il est méchant. Moi, je ne vais même plus le voir. Amen. Mais honnêtement, est-ce que quelquefois nous n'avons pas prié le Seigneur? Et puis Dieu ne nous a pas vite exaucé. Mais nous ne disons pas directement, bon, quelquefois on murmure, on dit, ah Seigneur, sûrement tu n'es pas bon. Mais généralement, on ne parle pas trop contre Dieu parce qu'on a peur. Hein? Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, il a tout. C'est-à-dire, même si tu veux, je ne sais pas, Un milliard, là, il te donne, là, c'est rien. Il n'a qu'à toucher quelqu'un dans le monde qui vient, qui se lève le matin, puis on te donne ça. C'est rien pour lui. Et pourtant, quelquefois, tu as juste besoin, je sais pas, d'un tout petit peu d'argent pour résoudre quelque chose qui est important et le Seigneur n'intervient pas rapidement. Amen. Alléluia. Quelquefois, le caractère que nous voyons envers Dieu, nous le trouvons avec les hommes. Mais quand sans les hommes, nous les rejetons. Le Seigneur nous apprend simplement qu'en aimant les hommes, en apprenant à les supporter, nous aimons le Seigneur. En Matthieu chapitre 25, le Seigneur voulait dire tout simplement qu'en servant les hommes, nous sommes en train de servir Dieu. Lorsque vous venez à l'église, le culte consiste à adorer Jésus, je t'aime, je t'adore. Mais le je t'aime, je t'adore se voit dans le concret avec les frères. Sinon, en dehors de ça, c'est nul. Donc ceux qui viennent faire le culte, juste je viens, je t'adore, je prie, je rentre chez moi à la maison, ça ne sert à rien. C'est même pas la peine. C'est juste quelque chose pour émouvoir ton âme et ton esprit. Mais ce n'est pas d'une grande rentabilité spirituelle. C'est juste pour te ressourcer un peu, pour savoir que Dieu est vivant, qu'il est présent. La véritable vie chrétienne, c'est de savoir marcher avec les frères, quel que soit leur caractère, les supporter, les aider, les aimer, apprendre à les donner. Parce que ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Christ est venu. Et nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire petit Christ. Il a passé sa vie qu'à marcher avec des gens qui étaient un million de fois inférieurs à lui, sur le plan du caractère, de la moralité, de la puissance. Il les a supportés, il les a aimés. Comment pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens si nous ne pouvons pas supporter les moindres reproches, les moindres fautes de caractère des hommes? En quoi sommes-nous chrétiens? En quoi sommes-nous petit Christ? Lui, Jésus, il est parfait. Il n'a jamais péché. Et pourtant, il a marché avec nous des hommes pécheurs. Et toi et moi, nous avons péché. Et nous refusons de cheminer avec cette personne que nous trouvons trop mauvaise. Alors, estime-toi comment Dieu va te juger. La Bible dit, Dieu va te juger comme toi tu juges les autres. La rigueur avec laquelle tu juges les autres, attends-toi à ce que lui aussi, Dieu te traite de la même façon. Parce que lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais menti. Il ne s'est jamais enorgueilli. Il n'a fait aucune faute. Mais il nous a aimés. Quand nous étions faibles, il nous a tenus, il était après de nous. Il nous a aimés. Mais nous, quand les autres ont faibli, nous avons rejeté. Et nous disons que Seigneur, nous t'aimons. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans avoir les mêmes pensées, les mêmes objectifs? Christ a aimé les hommes. Et Christ, regarde le frère qui est à côté de toi, ça c'est ce que Jésus l'aime. Et toi-même, Jésus t'aime. Et de la même manière que Jésus t'aime, Jésus l'aime aussi. Pourquoi toi, tu ne vas pas l'aimer? Comment peut-il y avoir quelqu'un dans l'église à qui toi, tu ne parles pas? Alléluia. Et lui, puis Dieu lui parle, Dieu te parle à toi, et puis toi, tu ne lui parles pas. Alléluia. Et je termine avec cela. La Bible dit, quand on fait la prière de notre Père, il a dit quoi? Seigneur, pardonne-nous. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous pardonne de la même façon que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Certains pardonnent. Il y en a qui ne pardonnent même pas. Il y en a qui pardonnent un nombre de fois. Tu les as blessés une fois, tu dis pardon, il dit bon, que je laisse tomber. Deux fois, il dit à mon frère, là tu commences à exagérer. Trois fois, il dit, ah bon, là, c'en est trop. Je suppose que là, maintenant, ça devient de la provocation. Et je vais te montrer qui je suis. Il y en a, c'est cinq fois, il y en a la sixième fois, ils agissent, ils frappent. Amen. Dieu dit d'accord. Dieu est d'accord avec toi. Donc, je suppose que, avec toi, quelqu'un ne peut pas commettre trois fois ou quatre fois la même erreur. Le Seigneur suppose en même temps que toi, tu n'es pas capable de commettre trois fois ou quatre fois la même erreur. Parce que si tu estimes qu'un homme est impardonnable, après avoir péché trois fois contre toi, même pour le même péché, ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de répéter ce un péché trois fois. Et puis, il t'attend, et puis il verra. Peut-être un jour, tu vas mentir une fois. Le Seigneur dit, oh, je te pardonne, ça va. La deuxième fois, le Seigneur dit, ah, attention. La troisième fois, il dit, c'en est trop. Trois mensonges? C'est pas possible. Et Dieu te dirait la même chose que tu dis. Ça, c'est de la provocation. Je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas mentir. Et ça fait trois fois que tu mens. Et il ne te pardonne plus. Frère, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais leur péché n'est plus pardonné. Parce que le quota qu'ils ont fixé aux autres a été eux-mêmes atteint par eux face à Dieu. Amen. Mais frère, c'est vrai. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, Dieu nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Il ne nous pardonne pas. Quand nous nous convertissons, Christ nous pardonne tous nos péchés. Mais une fois que nous sommes chrétiens, il nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne nous pardonne pas tous nos péchés. Mais il nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. Si nous pardonnons 10 fois, il pardonne 10 fois. Si nous pardonnons 20 fois, il pardonne 20 fois. Si tu pardonnes 30 fois, il pardonne 30 fois. Et après 30 fois, il ne te pardonne plus. Tu vas lui demander pardon, tu penses que tu as pardonné, mais tu verras les difficultés, le malheur se unissent dans ta vie. Tu te diras, mais Dieu, pourquoi tu es fâché avec moi? Je me suis repenti de mon péché. N'as-tu pas dit que si je confesse mon péché, tu me pardonneras? Mais tu n'es pas pardonné. Parce que tu n'as plus pardonné à ce frère ou à cette sœur. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement qui est semblable à celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Mes amis, que ces choses soient dans nos cœurs, dans notre vie. Efforcez-vous de les mettre en pratique. L'amour est la plus grande des choses. La Bible dit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. C'est le plus grand de tous les commandements. Vous savez, les choses les plus importantes sont les plus difficiles à avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous devez faire vos efforts. Vous devez apprendre à être patient. Ça s'apprend. Vous devez apprendre à supporter les autres. Dès que vous découvrez un frère que vous n'arrivez pas à supporter, une sœur, parce qu'elle parle d'une certaine façon, quand vous la voyez, ça vous irrite. Je vous dis, cherchez à vous approcher de cette personne. C'est elle qui est votre délivrance. Quand c'est venu, tu lui fais un grand atout. Oh ma sœur, je t'embrasse. Par toi, Dieu est en train de me transformer. Je me suis rendu compte par ton caractère. Alléluia. Alléluia. Tu diras, ton caractère m'a dit, ton caractère m'a montré que je ne supportais pas tout. Si je n'avais pas découvert, si je n'avais pas trouvé, j'aurais cru que j'étais capable de tout pardonner. Mais toi, tu es la personne qui me prouve que je ne pardonne pas tout. Oh, la Bible dit l'amour pardonne tout. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te montre que tu ne pardonnes pas tout, pour savoir que tu ne peux pas tout pardonner. Il faut bien qu'il y ait des gens que tu ne sois pas capable de supporter pour savoir où est la limite de ton amour. Il faut bien que le Seigneur les mette sur ton chemin afin que tu apprennes à grandir dans l'amour. Si Dieu ne te met pas sur ton chemin, comment est-ce que tu sauras que tu manques d'amour? Amen. Donc apprends à les supporter. Cela ne veut pas dire que nous devons faire exprès pour blesser les frères. Chacun doit faire l'effort de s'améliorer. Ensemble, baissons la tête et prions le Seigneur. Que chacun parle à Dieu selon ce que Dieu lui a dit dans cette parole. Au nom de Jésus. Nous pouvons avoir tous les dons spirituels, tous les charismes, toute la connaissance de Dieu. Mais ce que le Seigneur recherche par-dessus tout en nous, c'est notre caractère d'amour. C'est ce premier caractère que lui, Jésus, a manifesté, que Dieu a manifesté pour nous sauver, pour nous donner les dons, pour nous faire les promesses. C'est par amour que nous avons les promesses. C'est par amour que Dieu nous a donné des capacités. C'est tout vient de son amour, parce qu'il nous a aimés. Donc avant toute chose, que nos cœurs recherchent l'amour. Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse le Saint-Esprit visiter ton cœur. Le Seigneur t'a parlé, ma soeur, le Seigneur t'a parlé, mon frère. Parce qu'il veut que tu sois une nouvelle personne. Il veut établir en toi la base de la chrétienté, la base de notre salut, qui est l'amour de Dieu pour nous. Et la première des choses que Dieu a voulu voir en nous, que nous puissions reproduire, l'aimer de toute notre force, lui donner la première place et aimer nos frères, nos soeurs comme nous-mêmes. Juge-toi toi-même avec ce que le Seigneur t'a dit dans sa parole. Aimes-tu réellement le Seigneur? Aimes-tu réellement les frères? Manifeste-t-il le caractère de l'amour? Ah Seigneur, ah Seigneur. 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 Je sens l'Esprit de Dieu descendre parmi nous d'une manière puissante. Je sens l'Esprit de Dieu créer des réconciliations. Je sens des personnes qui avaient laissé la haine, l'amertume, le manque de pardon gagner leur cœur, être visitées par la puissance de Dieu. La parole de Dieu a été semée et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans l'amour, pour nous apprendre à aimer. Le Seigneur te rappelle à l'instant, je parle, les hommes qui t'ont offensé, les hommes, les femmes, et il te demande de pardonner et d'aimer. Il te montre les failles dans ton caractère et il te dit d'aimer, de supporter, d'être comme lui. C'est pourquoi il t'a donné ce nom chrétien, comme lui, petit Christ. Le vent de l'Esprit de Dieu souffle parmi nous. Le vent de l'amour, le vent de la réconciliation, le vent du pardon. La réalité de l'amour de Dieu. Le vent de Dieu souffle. Il y a des personnes qui ont des blocs dans leur cœur, des blocs d'amertume, des blocs de colère, comme une carapace par lesquelles ils se protègent. Mais la puissance de Dieu vient maintenant te délivrer. Et pendant que la parole était donnée, tu sentais au fond de toi comme quelque chose qui résistait. Et Dieu te dit, tu dois laisser tomber. Mais ton cœur disait non. Et ce bouclier que sur ton cœur, cette carapace, Dieu la brise maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Je sens l'Esprit de Dieu agir parmi nous et produire un vent de délivrance. Certaines personnes seront délivrées. D'esprit de colère, d'esprit de haine, d'esprit d'impatience, de l'esprit du monde, d'esprit de convoitise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit produit des délivrances. Que chacun cherche Dieu pour sa vie. Que chacun cherche Dieu pour sa vie. Que chacun cherche le Seigneur pour sa vie. Car le Saint-Esprit est disposé pour guérir, pour délivrer. Au nom de Jésus. Nous avons les têtes baissées. Je demanderai à tous au milieu de nous qu'ils sentent qu'ils ont un fardeau dans le cœur. Des gens à qui ils n'ont pas pardonné, qui ont senti pendant que je prêchais comme un blocage, comme de l'amertume, de la haine en eux encore. Dieu a parlé et la parole de Dieu vient ce soir pour te guérir. Et si tu te sens touché par cette parole, tu sens qu'il y a un blocage, que dans ton cœur il y a encore de l'amertume, il y a des gens à qui tu n'as pas pardonné. À qui il t'est difficile de pardonner. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être tes amis, ça peut être des personnes, je le sais. Mais si ton cœur a ce fardeau, tiens-toi debout. Si tu n'as pas pardonné à cette même personne, lève-toi, je vais prier le Seigneur pour toi. S'il y a des personnes parmi nous, tout le temps dans le même esprit de recueillement, dans le même esprit fixé sur le Seigneur. Si tu sens au fond de toi qu'il y a des personnes à qui tu n'as pas pardonné, que ton cœur est lourd, tiens-toi debout. Je fais cette première prière pour vous. Mettez une main sur le cœur et lève l'autre main. Mets une main sur ton cœur et lève l'autre main. Je vais prier en deux temps pour toi. Après, je vais vous demander de venir devant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu agis maintenant dans nos cœurs et tu libères nos cœurs, Saint-Esprit. Si tu t'es levé, ma soeur, si tu t'es levé, mon frère, c'est parce que tu veux que ton cœur chante, c'est parce que tu veux aimer et que cela te semble difficile. Mais la puissance de Dieu est là ce soir pour te délivrer maintenant et pour te restaurer. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend en toi comme des fleurs d'eau vive et ôte l'amertume et ôte la haine. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Il te visite, il te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sens une personne parmi nous, il y a une soeur parmi nous, qui a une haine dans son cœur. Lorsqu'elle s'est convertie, cela s'est sentible, sentible, atténué. C'est comme quelque chose que vous avez cumulé longtemps dans votre famille. Par rapport à une certaine situation avec ton père, ta mère, et qui t'a détruit. Tu pensais que tu avais laissé tomber. Mais la parole de Dieu ce soir t'a montré que non. Et tu as tellement cumulé cette haine dans ton cœur pendant des années que c'est même un esprit impur qui est venu prendre possession de ta vie dans ce sens-là. Pendant que je donne la parole, l'esprit d'amertume et l'esprit de haine s'éloignent de toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Pendant que je donne la parole, tu sentiras comme un feu en toi dans ton cœur et l'esprit va sortir maintenant même par ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris les cœurs. Au nom de Jésus. Je vous demande maintenant un deuxième geste à ceux qui sont debout. Veuillez vous avancer par devant, s'il vous plaît. Jésus, au nom de 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 Jésus, certains seront délivrés, l'esprit va sortir par votre bouche. Si un esprit crée ce problème, il part maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sort par la bouche, esprit de haine, sort par la bouche, esprit de colère, sort par sa bouche et bat dans les lieux arides. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu guéris, Seigneur, tu guéris, Seigneur, tu consoles, Seigneur, tu libères, Seigneur, tu décharges. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Au nom de Jésus. L'esprit de haine sort par ta bouche. Il part. 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 Au nom de Jésus. Je détruis ton emprise sur le cœur et sur les vies de ces hommes et ces femmes dans le nom de Nazareth. Je t'ordonne, parce que la parole de Dieu a été prêchée, que tu n'as plus le droit de dominer, d'influencer leurs sentiments, leurs pensées et leur façon d'agir, de penser. Car Christ est en eux, Christ est en elles. Et c'est la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Et Christ en nous, nous ne pouvons qu'aimer. Christ en nous, il n'y a point de haine en nous. Maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, vous recevez la délivrance. Vous allez sentir comme l'esprit qui passe par ta bouche et qui part, et ton cœur est en train d'être déchargé. Ton cœur est en train d'être déchargé. Il part. Il part, il part, il part, il part, il part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enfin, suivez cette sœur.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets-le dans son cœur, qu'elle laisse appeler son cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il te lâche, il lâche ton cœur, 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 au nom de Jésus. Sois délivré, que ton cœur soit rempli d'amour. Maintenant, maintenant. Esprit impur, je brise ton pouvoir dans sa vie. Je détruis tes œuvres en elle. Lâche-la. Lâche-la, esprit humain. Lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. Esprit humain, tu lâches sa vie. Tu la lâches. Tu la lâches. Maintenant, tu pars. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, lâche, lâche. Lâche, 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 lâche. Tu la libères, tu la libères. Tu la libères Satan, tu la libères démon. Tu n'as plus d'emprise en elle, tu n'as plus d'emprise son cœur. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Soyez libéré dans le nom de Jésus. Soyez délivré, soyez libéré maintenant. Soyez restauré dans votre cœur. Et maintenant vous sentez la haine disparaître. Et votre cœur se remplit d'amour. De la véritable nature de Christ. Esprit puissant. Lâche-la, il n'y a plus de place pour toi. Il n'y a plus de place pour toi. Il n'y a plus de place pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant, il en est ainsi. Vous recevez votre délivrance et votre restauration dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Chargé, sois libéré maintenant. Le Saint-Esprit te visite, te libère. Au nom de Jésus, qu'il en soit de même pour toi. Sois libéré, sois déchargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu guérit ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libéré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant que tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle, que tout le monde se tient debout. Levez la main vers le Seigneur, vous restez devant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le vent de Dieu va souffler parmi nous. Certains vont recevoir une délivrance. Les esprits vont partir des corps dans le nom de Jésus. Les démons ne tiennent pas face à la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Cette prière est une prière qui touche au cœur de Dieu. La recherche de l'amour et du caractère de Dieu. La Bible dit de Dieu que Dieu est amour. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être comme toi, te ressembler, avoir ta nature. Toi qui es si juste, qui es si parfait, toi tu nous as aimé le premier et tu as donné ta vie pour nous. Tu as manifesté envers nous de la patience, de la bonté. Et aujourd'hui, Seigneur, nous crions à toi afin que tu remplisses ton cœur et ton amour. Que tu ôtes de nous toutes les argumentations, tous les raisonnements, toutes les séductions de ce monde qui nous empêche de manifester ton caractère, et que toi qui nous remplis, tu nous remplisses davantage. Saint-Esprit, viens nous remplir et nous conduire dans toute la vérité, dans toute la vérité de ta parole. Oh Saint-Esprit, coule parmi nous, viens remplis-nous d'amour, viens remplis-nous d'amour, viens remplis-nous d'amour, viens remplis-nous d'amour. Que ton eau comme un fleuve, viens coule en nous, autant la vertu, autant la haine, autant la méchanceté, faisant disparaître l'orgueil, l'égoïsme, la bombardise, l'envie, la colère, l'irritation et tout ce qui est contraire au sacrement de l'amour. Que l'impatience ne soit plus en nous et que nos cœurs soient remplis de vie, que nos cœurs soient remplis d'amour, que nos cœurs soient remplis de patience, que nous apprenons à ne plus soupçonner, à supporter, que nos cœurs n'aient rien de malhonnête, que nous marchons dans l'honnêteté, que nous soyons remplis de l'amour de Dieu. La gloire de Dieu vous remplisse maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple. Alléluia. Nous allons faire maintenant un moment de silence. Nous allons faire un moment de silence, tout en levant la main vers le Seigneur. Faites bruit. Et nous allons laisser le Saint-Esprit mettre l'amour dans votre cœur.